Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, 18h16, l'interview d'actualité d'RTL Soir. Thomas, vous recevez ce soir Robert Badinter.
Bonsoir Robert Badinter.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'RTL Soir. Demain et jeudi, nous nous souviendrons de la libération des camps d'Auschwitz-Birkenau. C'était il y a 75 ans. C'était quoi, Robert Badinter, la libération des camps?
Écoutez, les journaux à l'époque étaient format timbre-poste. Et la libération du camp d'Auschwitz, c'est trois lignes. C'est tout.
Une brève.
Oui, une brève. L'armée rouge a libéré le camp d'Auschwitz, camp de concentration et d'extermination. Mais c'était pas plus que ça. Et comme les Soviétiques avaient diffusé peu d'images, ils en avaient pris beaucoup, mais ils en avaient diffusé peu, c'était même pas aux actualités de l'époque. La prise de conscience du phénomène des camps d'extermination et même des camps de concentration dans lesquels la mortalité était si importante, eh bien, c'est à la fin, véritablement à la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, quand les troupes alliées ont libéré les camps de concentration allemands.
75 ans, c'est long, c'est loin. Que reste-t-il de tout ça aujourd'hui?
Qu'est-ce que représente 75 ans après l'événement, sinon ce que l'on a édifié comme mémoire à partir de l'événement? C'est moins l'événement lui-même que ce qu'il est devenu à travers les 75 années écoulées. Et puis, nous arrivons à un point où bientôt il n'y aura plus de survivants, ce ne sera plus la mémoire, ça sera l'histoire.
Vous êtes allé à Auschwitz en 1956, je crois.
Oui, pour la première fois, oui.
Quelle image vous en gardez?
Écoutez, c'était encore une société tout à fait communiste. Les Polonais étaient très peu enclins à reconnaître qu'il y avait là un camp d'extermination pour les Juifs. Le conservateur était très content d'avoir quelqu'un qui venait visiter, parce que c'était un jour de semaine, début du printemps. À la fin, il m'a laissé seul devant ma demande, devant la chambre à gaz, enfin ce qui en reste, puisque les SS les avaient détruites avant de s'en aller. Il y avait des blocs de béton, mais il y avait quatre marches qui descendait vers la chambre à gaz. Et j'étais là, j'étais tout seul. Et puis, en baissant les yeux vers les marches de béton, j'ai vu trois fleurs, trois petites fleurs, sans doute des marguerites, je crois, enfin des petites fleurs. Et j'ai regardé ces fleurs longtemps. Et je me suis penché, j'ai cueilli une d'entre elles. J'ai laissé les deux autres dans les interstices. Et le soir, à l'hôtel, en revenant, j'écris à ma mère en lui envoyant la fleur et en lui disant voilà où je les ai cueillis, voilà ce que le devoir du fils accompli. Et j'ai ajouté ceci, c'est le symbole de la vie qui l'emporte sur la mort. Et c'est ça que j'ai voulu conserver comme message tout au long de ma vie. Oui, la vie est plus forte que la mort, c'est ça le message qui compte. Et c'est ce que j'ai toujours dit à la jeunesse, aux jeunes gens. J'ai dit, voilà. Et vous devez savoir, mais vous devez aussi vous souvenir que la vie est plus importante que la mort.
Vous parlez des jeunes gens. Aujourd'hui, en France, les jeunes juifs sont inquiets. Une étude a été publiée ce matin. 34% des juifs, un tiers des juifs vivant en France, disent se sentir menacés dans leur vie quotidienne. 70% disent avoir déjà été victimes d'un acte antisémite. Un chiffre qui monte à 84% chez les 18-24 ans. Que vous inspirent ces chiffres et cette réalité aujourd'hui?
Écoutez, je n'aurais jamais cru que ça soit possible. Je veux dire la révélation de l'antisémitisme. Mais au-delà, c'est une absurdité. C'est pas, tous les vieux pensifs, l'idée délirante selon laquelle les juifs seraient tout-puissants, organisés, tout ça, c'est du fantasme. Et c'est ancré.
La France de 2020 est-elle un pays antisémite?
Non. À côté de ce que j'ai vu pendant les années de l'occupation. J'avais entre 12 ans quand les Allemands sont arrivés, 16 ans quand la libération s'est produite. Non, vraiment pas. Mais je croyais comme je dirais la quasi-totalité d'entre nous, pas seulement juifs évidemment, français, que c'était fini, que c'était une page d'histoire. Quand on dit la Shoah, terme hébreu, quand on dit le... Mais non, il faut voir ce que ces mots recouvrent. Et il faut me jurer que c'est des enfants qu'on a jetés vivants dans les chambres à gaz. On ne peut pas aller plus loin dans la barbarie. Et c'est pour ça, je pense, qu'Auschwitz reste un symbole, parce qu'il est le symbole de la barbarie humaine.
Si vous étiez jeune aujourd'hui, Robert Badinter, est-ce que vous seriez tenté de quitter la France ?
Non. Non. Moi, je suis né ici, j'ai grandi ici, j'aime la République, je lui considère que je lui dois tout, d'ailleurs. J'ai haï Vichy. Plus je l'ai exploré, plus il m'est apparu détestable. Mais ça ne se discute pas.
Vous faites une différence, un distinguo entre antisémitisme et antisionisme. Certains le font aujourd'hui.
Écoutez, l'antisionisme, c'est la haine de l'État d'Israël. Derrière cette haine de l'État d'Israël, vous découvrez facilement une haine des Juifs tout court. Alors, que l'antisémitisme prenne le masque de l'antisionisme, ou que l'antisionisme soit la couverture de l'antisémitisme, ça a été très bien jugé par la Cour européenne des droits de l'homme, dans un arrêt qui porte un nom célèbre, l'arrêt Garaudy, dans lequel la Cour européenne des droits de l'homme a condamné Garaudy, parce que, disait-il, l'antisionisme n'est jamais qu'ici, dans ce cas-là, et selon les propos, qu'un des aspects de l'antisémitisme.
En avril 2017, une femme, Sarah Halimi, était assassinée, d'abord agressée chez elle, avant d'être jetée par la fenêtre de son appartement. Son meurtrier, Robert Badinter, a été déclaré pénalement irresponsable. Il ne sera donc pas jugé, il n'ira pas en prison. Est-ce que vous partagez l'émoi, l'émotion que cette décision a suscité, ou est-ce que l'homme de loi que vous êtes dit « c'est la loi, c'est ainsi, il faut l'accepter »
Non, je laisse de côté mes sentiments personnels, mais c'est une décision qui est maintenant, je crois, soumise aux juridictions suprêmes, notamment la Chambre communale de la Cour de cassation, et qui se révélerait en elle-même, si elle devait faire jurisprudence, source d'extrême péril pour la mise en œuvre de la loi pénale. Parce que ça voudrait dire en clair que toute personne consommatrice de haschich, s'il agit sur l'influence du haschich qu'il a pris, ne peut pas être poursuivi pénalement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que cela impliquerait pour tous les drogués, mais non seulement les drogués. Je vais prendre un exemple. Dans le cas du meurtre des femmes, du féminicide, il y a un certain nombre d'hommes qui tuent leurs femmes parce qu'ils sont ivres. À un moment, ils sont possédés par l'ivresse et ils se laissent aller à des... Alors on dira, ah non, on ne peut pas les poursuivre, c'est hors de lui, un état alcoolique, quelle est la différence ? Non, là je pense qu'une décision de principe interviendra de la Cour de cassation, la Chambre criminelle, et que les choses sont remises en ordre.
Je voudrais qu'on parle un peu du climat en France depuis quelques mois. Il y a eu beaucoup de violence, il y a eu de la colère, il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, il y a des manifestations qui dégénèrent régulièrement. Comment vous la qualifieriez, notre époque, Robert Badinter ?
Par l'adjectif même, violente. Celui que vous évoquez, est-ce que la violence est tolérable en démocratie ? Je ne le pense pas. Je dirais même que la violence, pour moi, peut-être à cause de ce que j'ai connu dans ma jeunesse, elle est des sens fascistes.
Mais qui est responsable de cette violence ?
Elle est des sens totalitaires. Vous avez dans un état de droit un certain nombre d'exigences à respecter, et vous avez les barrières de l'état de droit qui interdisent de recourir à la violence. La violence, elle ne doit pas faire partie de la vie ordinaire de la démocratie. Sinon, vous sombrez.
Certains manifestants dénoncent régulièrement des violences policières en France aujourd'hui.
Oui.
Considérez-vous qu'il y a des violences policières ?
Juger par les images que nous voyons et lire les comptes rendus que nous avons, il en existe. Je dois vous dire d'ailleurs que l'histoire en est cousue. Mais la violence policière doit être sanctionnée, interdite d'abord, comme toute autre forme de violence, et elle doit être sanctionnée quand elle s'inscrit là, de la part des forces de l'ordre, d'une façon qui n'est pas indispensable au maintien de l'ordre.
Maître Badinter.
Non, pas maître, je n'exerce plus la profession depuis 1981.
Mais c'est quand même à l'avocat que je m'adresse. On a vu vos confrères se mobiliser, enlever leurs robes, les jeter parfois, y compris devant la garde des Sceaux. Est-ce que vous comprenez leur colère, vous comprenez leur mouvement, vous comprenez ce geste?
Je comprends très bien. Vous savez, ils avaient un système qui fonctionne bien. Leurs exigences de l'uniformité du système que l'on veut instaurer par points, avec la disparition de la caisse actuellement florissante des avocats, les affectent, et surtout, je dois le dire, l'accroissement des cotisations pour les avocats, et notamment les plus jeunes, c'est très difficile. Difficile. Donc, je conçois leur réaction en ce qui concerne la robe. C'est le symbole de la défense. Et on ne jette pas la défense par terre.
J'ai une dernière question pour vous, Robert Badinter. On a balayé rapidement beaucoup de sujets, beaucoup de problèmes. Est-ce qu'on a encore le droit de rêver aujourd'hui en France?
Mais on rêve.
Qu'est-ce que vous dites aux jeunes?
Mais on n'a pas seulement le droit. Je ne dis pas qu'on ait l'obligation. Mais Dieu merci, on rêve.
Vous rêvez de quoi, vous, Robert Badinter?
À mon âge, on ne rêve plus, on a des souvenirs.
Merci infiniment, Robert Badinter, d'avoir accepté l'invitation d'RTL Soir aujourd'hui. Merci à vous.
RTL Soir, 18h28.
Voilà pour ce témoignage de Robert Badinter, enregistré à 16h tout à l'heure au domicile parisien de l'ancien garde des Sceaux. Entretien à retrouver en longueur et en intégralité sur notre site rtl.fr. Se souvenir d'où l'on vient, mais aussi regarder où l'on va. Cette fois, c'est Andrea Bescon qui s'y colle. Retour vers le futur, ce sera l'œil d'Andrea. Et c'est juste après le rappel de 18h30.
Thomas Soto, RTL Soir.